Merci Nicolas pour ton message. Sois béni.
C'est vrai qu'il fait un peu frais, alors, mais ce message ne sera pas du réchauffé. J'espère qu'il réchauffera votre cœur, si ce n'est au moins qu'il éveillera quelque chose de fort en vous. Je vais continuer dans la continuité des messages que j'ai pu donner sur le retour de Jésus avant que nous entrions dans le confinement et dans lesquels j'ai poursuivi d'autant plus avec les événements que nous vivons dans ce monde actuellement. La dernière fois, j'ai parlé du fait de veiller. Veiller, et nous avons vu que veiller, c'est garder une foi active. Garder une foi active de deux manières. D'une part, en évitant ce qui ne donne pas d'importance à Dieu et surtout en ce qui lui en enlève, et en nous remplissant de ce qui lui donne de l'importance, en nourrissant notre foi pour qu'elle soit active ou de manière active. Et j'aimerais aujourd'hui entrer dans les paraboles que Jésus utilise pour illustrer ce que signifie veiller. Et nous allons voir dans ces paraboles qu'est-ce que Jésus nous précise de ce que veut dire veiller, en commençant par la parabole des dix vierges, la célèbre parabole des dix vierges. Alors nous allons la lire ensemble. C'est dans Matthieu 25. Et voilà l'exemple que Jésus donne pour nous faire comprendre ce que signifie veiller. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 demoiselles d'honneur qui, ayant pris leur lampe, s'en allèrent à la rencontre du fiancé. 5 d'entre elles étaient insensées et 5 étaient sensées. Les insensées prirent leur lampe avec elles, mais sans emporter d'huile, tandis que les autres prirent avec leur lampe des fioles remplies d'huile. Or, comme le fiancé se faisait attendre, elles allèrent toutes se coucher. Au milieu de la nuit, un cri retentit. « Le fiancé est ici, sortez à sa rencontre !» Les jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes pour s'éclairer. Les insensés dirent aux sensés, « Donnez-nous un peu de votre huile, car nos lampes sont en train de s'éteindre. »« Non, répondirent-elles, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez en chercher chez les marchands d'huile et achetez-en pour vous. » Mais, tandis qu'elles partaient en acheter, le fiancé arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte se referma. Plus tard, les autres demoiselles arrivèrent et s'écrièrent « Seigneur, Seigneur, laisse-nous entrer !» Mais il répondit « Je vous le dis, je ne vous connais pas. Soyez donc vigilants, car vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. » J'ai intitulé ce message « Gardez la foi dans l'attente ». Et vous comprendrez dans la continuité du message, pourquoi. Mais avant cela, j'aimerais poser deux choses importantes par rapport à ce qu'est une parabole dans la pensée biblique. Qu'est-ce que déjà une parabole ? Qu'est-ce qu'une parabole dans la pensée biblique ? En hébreu, une parabole, ça se dit machal, ça signifie exemple. Et dans la sagesse juive, c'est un des procédés, parmi d'autres, sous la forme d'une comparaison, d'une illustration, par lesquelles on vient communiquer un enseignement, une loi, une révélation divine, une réalité spirituelle qu'avec notre intelligence, nous aurions du mal à comprendre. Et Jésus, plus que tout autre sage juif, sachant qu'il est plus qu'un sage, a utilisé les paraboles. C'était un maître inégalé en la matière, un maître parabolier, on pourrait dire. Les paraboles, c'est vraiment ce qui caractérisait l'enseignement de Jésus. C'est comme ça qu'il enseignait. Et toutes les paraboles de Jésus sont en lien avec les choses dernières. Toutes les paraboles de Jésus sont en lien avec les choses dernières, ce qui va se passer dans les temps de la fin. Et par extension, finalement, toutes les paraboles bibliques, si on y regarde bien, elles sont en lien avec les choses dernières. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, à quoi sert une parabole? Quel est le but d'une parabole? Pourquoi est-ce que l'on vient enseigner avec une parabole? Dans la compréhension juive du monde, le monde a été brisé. C'est ce que nous voyons dans la Genèse. Le monde a été brisé et depuis cette brisure du monde, cette cassure du monde, il se répartit entre les justes et les méchants, les injustes, les sensés, les insensés, les sages, les fous. Et dans l'attente que ce monde soit réparé quand le Messie va revenir, c'est ce qu'on appelle la tikkun olam dans la sagesse juive. Il convient justement de savoir qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui ne l'est pas. Comment est-ce que je fais concrètement dans ma vie pour faire partie des justes? En cela, la sagesse juive, elle est beaucoup plus pratique, elle est plus concrète que la sagesse grecque, qui est la sagesse du monde païen, on va dire. La sagesse qui est dans notre monde, dans la philosophie des Lumières, par exemple, c'est cette sagesse-là où il s'agit en fait d'essayer de comprendre comment les choses fonctionnent. Mais la sagesse juive, c'est autre chose. Il s'agit plutôt de savoir comment est-ce que ce que je fais, c'est juste ou pas? Et comment je peux être juste? Comment je peux être juste selon la justice de Dieu pour faire partie de ce monde nouveau quand le Messie va revenir? Ça, c'est le but de la sagesse juive. Et donc, une parabole, à quoi sert la parabole? La parabole, elle sert à indiquer par un exemple, une comparaison, une illustration, comme on l'a vu dans cette parabole des 10 vierges, ce qu'il convient de faire et ce qu'il convient d'éviter pour être juste et faire ainsi partie de ce monde nouveau quand le Messie va revenir. La parabole, c'est donc un appel à la repentance. Un appel à la repentance, se positionner, changer de mentalité, pour adopter une mentalité qui est juste selon la justice de Dieu. Et les paraboles de Jésus sont un appel à la repentance. À ceci près que Jésus, lui, vient ajouter une nuance, entre guillemets. Alors c'est plus qu'une nuance, parce que ce qu'il est venu dire, c'est venu bouleverser ses contemporains. Et ça nous bouleverse encore aujourd'hui. Parce que nous avons, en tant qu'êtres humains, cette habitude, ou par nature, où pour nous, ce qui est juste, c'est ce que l'on fait. On va repérer ce qui est juste dans nos vies selon ce que l'on fait, ou selon ce que l'on ne fait pas. Mais Jésus vient nous dire, vous aurez beau faire tout ce que vous voudrez, vous ne pourrez jamais paraître juste devant Dieu, car le cœur humain est corrompu. Votre cœur est corrompu. Quoi que vous fassiez, vous ne pourrez jamais être juste devant Dieu. Ce qui peut véritablement changer votre cœur et vous rendre juste, c'est de croire en moi qui a été envoyé par le Père. Par le Père pour prendre sur moi toutes vos injustices, celles que vous subissez, celles que vous commettez et qui vous conduisent à la mort. Et moi, je suis venu mourir à votre place. Et c'est en cela qu'il s'agit de croire en la bonté de Dieu qui utilise ce moyen-là pour vous rendre la vraie vie, pour vous rendre véritablement juste. C'est ça qui vous rend juste, pour que vous fassiez partie de ce monde nouveau que je vais restaurer quand je vais revenir. Et c'est cela aussi, cette fois, il s'agit de croire dans le fait que je vais revenir vous chercher. Je vais revenir chercher ceux qui auront cru à cette vraie justice, cette justice de la foi, au moment où je reviendrai pour restaurer ce monde. Le but des paraboles de Jésus, c'est donc d'appeler à la repentance. Et c'est aussi d'appeler à la foi. C'est d'appeler à la repentance, un changement de mentalité qui s'enracine dans la foi, dans la source. C'est la foi, pas ce que nous faisons, mais en qui nous croyons. En qui nous croyons, la foi en lui, et en particulier, à l'intérieur de cela, dans la promesse de son retour. Combien il y a d'églises qui n'enseignent plus le retour de Jésus? Il y a beaucoup d'églises où on ne parle plus du retour de Jésus. Et c'est essentiel. C'est essentiel parce que comment, du coup, je m'y prépare? C'est ce qu'enseignent les paraboles. Donc maintenant, nous pouvons entrer dans la parabole des 10 vierges. Déjà, lorsque Jésus dit cette parabole, ce n'est pas à n'importe quel moment. Nous sommes à 2 jours de Pâques. 2 jours de Pâques, et dans cette période de l'année, on a l'habitude de lire 5 petits rouleaux de la Torah. Et en particulier, le rouleau du Cantique des Cantiques. Et le Cantique des Cantiques est lui-même une parabole. C'est une parabole du mariage du Messie avec sa promise, le peuple d'Israël. Et quand Jésus vient enseigner cette parabole des 10 vierges, ses auditeurs le savent. Ils savent à quoi il fait référence. Il fait référence au Cantique des Cantiques. En fait, Jésus est en train de donner ce qu'on appelle un midrash ou un commentaire. C'est une explication qui va jusqu'à une application de ce qui est dans le Cantique des Cantiques, de cette parabole du Cantique des Cantiques. En effet, les vierges dont il est question, eh bien, c'est une autre version des filles de Jérusalem dans le Cantique des Cantiques. Ce sont les demoiselles d'honneur du mariage célébré dans le Cantique des Cantiques entre le Messie et son peuple, son épouse. Et il se trouve, on l'a lu, que ces demoiselles d'honneur, elles sont invitées à un festin de noces. Et en effet, le festin de noces, c'est une parabole, c'est une illustration de la manière dont Dieu va se réunir avec son peuple, avec tous ceux qui ont décidé d'avoir foi en lui. La forme que prend l'union de Dieu avec son peuple, c'est effectivement un banquet de mariage. Et dans la culture moyenne orientale, un repas, ce n'est pas rien. Le partage d'un repas, ça a une grande valeur, ça a une grande signification. Il signifie que nous sommes, quand je partage un repas avec quelqu'un, ça signifie « je suis pleinement en accord avec toi ». Et nous pouvons du coup manger ensemble. Et si à un moment, nous sommes en désaccord, alors le repas s'arrête. Et à partir du moment où c'est à partir du moment où l'accord est rétabli, qu'on a réglé les choses entre nous, que là, nous, de nouveau, nous pouvons manger ensemble. Sinon, nous sommes hypocrites. Et une fois que c'est réglé et que nous mangeons ensemble, tout ce qui s'est passé avant, c'est du passé. On n'en parle plus. Et le repas dont il est question dans cette parabole des 10 vierges, c'est celui d'une nouvelle alliance, d'un nouveau mariage, où Dieu se réconcilie non seulement avec son peuple qui a été infidèle, on le voit tout au long des Écritures, mais où Dieu se réconcilie avec toute l'humanité. Il invite toute l'humanité à ce repas, tout être humain. C'est un repas où Dieu vient dire à toute l'humanité, devant les puissances spirituelles, celles qui sont avec lui comme celles qui sont ennemies, voilà, nous avons eu un différend qui a conduit au brisement de ce monde. Mais maintenant, c'est terminé. Nous sommes réconciliés et le monde est réparé. Et on n'en parle plus. C'est un peu comme ça qu'on peut comprendre, c'est notamment comme ça qu'on peut comprendre ce verset dans le psaume 23 qui dit « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. » À ce repas, donc, tous sont invités, les juifs, les non-juifs, tout être humain. Tout être humain est invité à ce repas et c'est ce que nous pouvons comprendre dans le fait que Jésus est en train de parler d'un fiancé. Il ne parle pas de l'épouse, il parle des demoiselles d'honneur. Donc, tous sont invités, mais, parce qu'il y a un mais, tous sont invités, mais seuls ceux qui ont leur carton d'invitation pourront rentrer. Seuls ceux qui sont sur la liste d'invités pourront rentrer. Je me souviens, je ne sais pas si vous savez, des films où souvent on voit le personnage qui veut rentrer dans un lieu où il y a une grande réception avec plein d'invités et il y a une personne qui est à la porte. Monsieur, est-ce que vous avez votre carton d'invitation ? Ah ben non, je l'ai oublié. Bon, attendez, je regarde si vous êtes sur la liste d'invités. Et ah ben non, vous n'êtes pas sur la liste d'invités. Pas de carton d'invitation, vous n'êtes pas sur la liste d'invités, vous ne pouvez pas rentrer. Donc il faut son carton d'invitation. Et dans cette parabole, quel est le carton d'invitation ? Le carton d'invitation, c'est l'huile. C'est d'avoir de l'huile qui alimente le flambeau, la torche. Parce que ces lampes que tiennent ces demoiselles d'honneur, ce n'est pas une petite lanterne. C'est une torche. Une torche qui répand une lumière qui est beaucoup plus puissante que la lumière que pourrait répandre une simple lanterne. Mais cette torche, elle est embrasée par quoi ? Quelle est cette huile ? Quelle est cette huile qui permet que cette torche soit embrasée ? Alors, il y a beaucoup de commentateurs qui parlent du Saint-Esprit. Et effectivement, le Saint-Esprit, l'huile est un symbole utilisé, parmi d'autres, pour parler du Saint-Esprit. Mais Jésus n'y fait pas directement référence dans cette parabole. Et quand on interprète un élément dans un texte biblique, d'abord, on va regarder dans le contexte immédiat, en particulier dans une parabole. Ça ne veut pas dire que l'huile n'a rien à voir avec le Saint-Esprit, mais ce n'est pas forcément ce que Jésus dit au premier plan, ce que l'évangéliste Matthieu dit au premier plan. Et quand on va regarder les paraboles autour, celles qui précèdent et celles qui suivent, qu'est-ce que l'on voit ? On voit que dans la parabole qui précède déjà, le serviteur a été, il y a un serviteur fidèle, il y a un serviteur infidèle, et le serviteur qui a été fidèle l'a été parce qu'il était en train de faire son travail quand le maître était absent. Dans la parabole qui suit, la parabole des talents, les serviteurs ont été fidèles parce qu'ils ont servi les intérêts du maître. Ils ont investi l'argent qu'il leur avait confié. Et fidélité, ça vient du même mot que celui qui a donné foi. Ce qui a fait la différence pour ces serviteurs, c'est qu'ils étaient dans la foi. Et ils étaient dans la foi, ça s'est vu au travers du fait qu'ils ont servi les intérêts du maître, bien qu'il n'était pas là, bien qu'il était absent. Et quand on prend la parabole, la dernière parabole de ce passage, qui est celle des brebis et des boucs, qu'est-ce que l'on voit ? On voit que les brebis, elles sont entrées dans la vie éternelle parce qu'elles ont fait la volonté de Dieu, parce qu'au travers des actes de justice vers les plus faibles, vers les opprimés, c'était une manière de le faire aussi à Dieu. C'est cela qui leur a valu d'entrer dans la vie éternelle, en faisant la volonté de Dieu. Mais qu'est-ce que Jésus nous dit ? C'est que la volonté de Dieu, ce n'est pas avec ce que nous faisons que nous accomplissons la volonté de Dieu, c'est avec ce que nous croyons. C'est par la foi que l'on accomplit la volonté de Dieu. Sans la foi en Dieu, ce n'est pas possible d'accomplir la volonté de Dieu. Sans la foi en Jésus, ce n'est pas possible d'accomplir la volonté de Dieu. Cette foi, certes, elle est produite par l'Esprit en nous, mais cette foi, en fait, c'est la réponse, c'est notre réponse en tant qu'être humain. Et c'est la seule réponse qui est attendue par Dieu pour pouvoir faire partie de ce royaume qu'il va restaurer. Les actes de justice dans lesquels ces brebis étaient, elles ont pu les faire parce qu'elles étaient dans cette foi. Donc, je reviendrai par la suite avec les paraboles suivantes sur ce qu'est cette foi, mais pour aujourd'hui, on peut considérer que c'est à partir de cette foi. C'est à partir de cette foi que le tri se fera, parce que c'est ce dont parle la parabole des dix vierges. Il y a un tri qui va se faire. Toutes les paraboles que Jésus est en train de donner là, il est en train de dire il y a un tri qui va se faire. Il y a un tri qui va se faire et ce qui va être le critère de ce tri, c'est la foi. C'est la foi. Ce tri va se faire à différents niveaux, que ce soit au niveau d'Israël, que ce soit au niveau de l'Église, que ce soit au niveau des nations. Et c'est la foi qui va être prise comme critère entre ceux qui prendront part à cette vie éternelle et ceux qui resteront à la porte. Et oui, il y a deux types de vierges. Les insensés et les sensés, les folles et les sages, les imprudentes et les prudentes. Et celles qui ont été prudentes, c'est celles qui se sont préparées. Dieu et l'homme n'ont pas le même point de vue sur la folie. Pour l'homme, être fou, c'est manquer d'intelligence, dans le sens d'une faculté, qui nous empêche du coup de comprendre ce monde, par exemple. Mais pour Dieu, ce n'est pas ça la folie. Pour Dieu, la folie, c'est manquer de bon sens, dans le sens de le rejeter, de ne pas le suivre, alors que nous sommes dans un monde qui court à sa perte. Et ça, c'est vraiment une folie. Ça, c'est vraiment une folie. Donc voilà quelle est la folie pour Dieu. C'est de fonder sa vie sur du sable, sur des choses éphémères dans ce monde, plutôt que sur le roc éternel de sa parole. Donc cette foi dont il est question là, qui est cette huile, je pense que vous le savez pour la plupart, c'est quoi ? C'est de croire que Dieu est venu, qu'il est venu en ce monde, en Jésus, Jésus qui est mort pour moi, Jésus qui est ressuscité, et que ma vie est en lui à partir du moment où j'ai reçu la sienne et où je lui ai donné la mienne. Et cette foi, c'est aussi qu'il est l'époux, que c'est lui le fiancé, que c'est lui le fiancé qui reviendra bientôt me chercher pour m'enlever au ciel à sa rencontre, alors que lui sera en train de descendre. Même si il semble tarder. C'est de garder cette foi, même s'il semble tarder. Et moi, quand je regarde ce monde, parfois, je me dis, quand je vois les inégalités qu'il y a, quand je vois les injustices qu'il y a, et souvent, je me dis, c'est révoltant. Je me dis, mais Seigneur, mais qu'est-ce que tu fais? Quand est-ce que tu reviens? Ça devient impossible. Quand est-ce que tu reviens? Et on pourrait lâcher la foi. On pourrait dire, ouais, je laisse tomber, moi, j'y crois plus. Ce serait possible. Mais c'est là, justement, le message spécifique de cette parabole des dix vierges. Dans la continuité de la parabole qui précède, où de la même manière que le maître, les serviteurs, il y a un serviteur qui a été fidèle alors que le maître tardait à venir, là, comme dans la parabole, le fiancé tarde à venir, mais il y a des vierges qui se sont préparées. Le message spécifique de cette parabole, c'est l'épreuve de l'attente. C'est une épreuve d'attendre. C'est une épreuve d'attendre. Et quand on vit aussi des circonstances difficiles, pourquoi est-ce qu'on vit des circonstances difficiles ? Parce qu'on attend. Les circonstances difficiles qu'on les vit, on les vit parce que Jésus n'est pas revenu. Et du coup, ça aussi, ça peut nous faire lâcher par moments. Donc c'est l'épreuve de l'attente. Même si Jésus semble tarder à venir, est-ce que je garde la foi? Même si je vis des circonstances difficiles, est-ce que je garde la foi? En écho à ce que Jésus dit dans l'évangile de Luc, mais quand je reviendrai sur la terre, est-ce que je trouverai la foi? Et les amis, il y a des circonstances, on peut vivre des circonstances difficiles, il y a des circonstances encore plus difficiles qui vont venir. Et est-ce que je vais garder la foi? Est-ce que je vais garder la foi? À un moment, cette attente, elle va cesser. Cette attente, elle va cesser quand il y a un cri qui va retentir. Ce cri dont il est question dans cette parabole. Et là, nous serons tous réveillés. Nous serons tous réveillés dans le sens où nous dirons, ça y est, c'est le moment, c'est venu. C'est ce que la parole a annoncé, Jésus revient. Ça y est, il est en train de revenir. Et c'est quoi ce cri? Ce cri, ce sont tous les signes que la parole a annoncés. Ce traité de paix mondiale, en particulier au Moyen-Orient, qui sera signé, confirmé par celui qu'on appelle l'Antichrist. Ça, ce sera le cri. Ce moment où cette personne qui sera accueillie comme un génie militaire, politique et un Messie se dévoilera pour qui il est vraiment, qui viendra installer un règne de terreur et d'oppression. C'est là que nous saurons que Jésus revient. Et du coup, là, il y aura la différence entre ceux qui se seront préparés, parce qu'ils seront toujours dans la foi, parce qu'ils auront entretenu leur foi, et ceux qui ne se seront pas préparés. Et ceux qui se seront dit, ouais, non, mais je laisse tomber. Et là, qu'est-ce qui se passera ? Ceux qui se seront préparés, ceux qui seront toujours dans la foi, seront enlevés à la rencontre du Seigneur quand il reviendra. Et à partir de là, il y aura deux catégories de personnes. Il y aura ceux qui ne seront pas préparés, mais qui diront, qui auront trouvé la foi à ce moment-là, qui diront, oui, mais c'est ça, Jésus est revenu. Mais ils n'auront pas pu être enlevés, et eux, ils vivront ce règne d'oppression et de terreur, tout en ayant la foi. Mais la porte sera fermée. Ils garderont la foi, ils seront sauvés, mais aussi au prix de leur mort. En tout cas, de choses très difficiles. Et il y aura une autre catégorie de personnes, ceux qui continueront de rejeter Dieu. Voilà tout ce que nous dit cette parabole. Cette attente, de même que les défis et les circonstances difficiles que nous pouvons vivre les uns les autres, c'est notre jardin de Gethsémané. C'est notre jardin de Gethsémané. Gethsémané qui signifie pressoir à huile. C'est tout ce que nous vivons qui peut être difficile. Et cette attente où on se dit, mais wow, Seigneur, reviens. Ben, c'est ce par quoi, justement, nous produisons de l'huile. C'est ce par quoi nous pouvons prendre la direction de la foi. C'est ce par quoi nous pouvons nous déterminer pour Dieu, lui céder notre volonté, notre vie. C'est ce qui produit notre huile. Et cela peut être lourd, difficile, même douloureux par moments, ce que l'on vit dans cette attente. Et on va prier ensemble. On va prier ensemble par rapport à tout cela dans quelques instants. Mais avant, je voudrais juste laisser cette dernière considération. Même si l'attente, elle peut par moments être difficile, se faire longue, il y a une joie dans l'attente. Il y a une joie dans l'attente. Déjà, il y a cette joie de savoir que notre foi, elle grandit. C'est le moyen par lequel notre foi, elle grandit. Après, c'est nous qui décidons dans ce carrefour quelle direction nous prenons. C'est toi qui décides. Mais il y a aussi cette joie de savoir que tant que Jésus tarde à venir, la porte n'est pas fermée. La porte, elle reste ouverte. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui peuvent encore se tourner vers Dieu. Et alors que nous vivons l'attente qui peut parfois être douloureuse, c'est ça aussi que nous pouvons nous dire. Alors que nous vivons des circonstances qui sont difficiles, tout en ayant la foi, c'est cela que nous pouvons dire. Pendant ce temps-là, il y a des personnes qui peuvent se tourner vers Dieu. Il y a des personnes qui peuvent connaître ce que moi je suis en train de vivre, ce que moi je suis en train de partager. Ça, c'est une joie. Et c'est vraiment une grâce. Et ça, c'est quelque chose que nous pouvons demander dans la prière, de recevoir cette joie-là. Alors même que ça peut être compliqué, difficile par moment. Parce que c'est une joie aussi qui rend cette attente peut-être moins douloureuse. En tout cas, voilà, c'est une joie aussi qui nous porte. Alors que nous remettons ensemble nos défis à chacun, et en particulier ce défi de l'attente, que nous puissions en même temps louer Dieu pour les personnes qui peuvent le trouver. Amen. Nous allons prier. Ouais, Seigneur, je te loue, Père, de ce que tu viens nous rejoindre, de ce que tu viens nous rejoindre, de ce que tu nous rappelles que tu reviens bientôt. Tu reviens bientôt, Seigneur. Et je prie vraiment que cela fasse son chemin profondément dans notre cœur. Vraiment, Seigneur, que cette huile dans notre vie, cette huile de la foi que tu produis par ton Saint-Esprit en nous, oui, qu'elle soit là en abondance dans notre cœur. Je voudrais te remettre, Seigneur, s'il y a des personnes parmi nous qui ne t'ont pas remis leur vie, je vous remets au Seigneur Jésus et je vous invite à donner votre vie à Jésus-Christ. S'il y a quelque chose là qui vous parle, qui vient vous toucher, c'est Dieu qui est en train de vous parler. C'est Dieu qui vient vous toucher. C'est Dieu qui vient vous dire, c'est Jésus qui vient vous dire, je suis mort pour toi. J'ai donné ma vie pour toi, pour que toi tu vives. Alors je prie vraiment que tu puisses recevoir Jésus comme ton Sauveur et ton Seigneur. Que tu puisses lui dire, Jésus, je fais de toi mon Sauveur et mon Seigneur. Tu es mort à ma place. Et je ne mourrai pas, je vivrai éternellement. Je te demande pardon pour la manière dont j'ai conduit ma vie jusqu'à présent. Je te demande pardon parce que je n'ai pas cru en toi. Et je te remercie parce que tu me pardonnes. Tu me pardonnes pour tout ce que j'ai fait. Tu me pardonnes pour la manière dont j'ai conduit ma vie. Et tu me donnes cette foi en toi. Et je te remercie, Seigneur. Oui, je crois en toi. Je crois en toi et c'est parce que je crois en toi que je vais appartenir à ton royaume qui vient bientôt. Et tous ensemble, je vous invite à vraiment prier devant le Seigneur, qu'on puisse prier tous ensemble. Si ça vous parle, que vous puissiez vous lever à votre place. Que vous puissiez vous lever à votre place et déposer devant Dieu ce qui peut être difficile dans l'attente, ce qui peut être compliqué. S'il y a des cris, s'il y a des choses qui sont une cause de souffrance où il y a vraiment un ras-le-bol, ça devient dur d'attendre. Il y a des choses qui sont compliquées. Ça devient dur de voir dans quoi ce monde aussi s'engage. Et il y a des circonstances aussi dans ta vie qui sont difficiles. Il y a des choses que tu vis, là tu fatigues. Je prie vraiment, je t'invite à rentrer en prière avec moi et à déposer devant Dieu ce qui est compliqué, ce qui est difficile. Ouais, je te remercie Seigneur parce que tu rejoins mon frère, ma sœur. Tu rejoins mon frère, ma sœur dans ce qui est douloureux dans cette attente. Je te remercie, Seigneur, parce que tu renouvelles, Seigneur. Je prie dans le nom de Jésus, je proclame dans le nom de Jésus que tu renouvelles notre foi. Tu donnes un souffle nouveau. Tu donnes un souffle nouveau, Seigneur. Merci parce que tu donnes de regarder au fait que tu reviens bientôt. Tu donnes de regarder à qui tu es, Seigneur, à qui tu es, à ce que tu as fait. Tu es le seul à avoir fait cela, à avoir donné ta vie, personne d'autre. Tu donnes maintenant de regarder à cela, à qui tu es. Nos yeux sont fixés sur toi. Amen. Et Seigneur, je te prie que nous puissions recevoir que nous puissions recevoir les uns les autres cette joie aussi, cette joie d'être dans l'attente, malgré les circonstances, parce qu'il y a des personnes qui se tournent vers toi. Tu tardes à venir et il y a encore des personnes qui se tournent vers toi. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Et ensemble, que nous puissions remettre aussi les personnes qui sont autour de nous, les personnes qui sont dans nos familles, les personnes que nous chérissons, les personnes que nous aimons. Car dans ce temps d'attente, elles peuvent se tourner vers Dieu. Prions pour elles. Elles peuvent se tourner vers Dieu. Seigneur, nous te remettons toutes ces personnes qui sont dans nos familles, toutes ces personnes que nous avons à cœur. Et nous te remercions, Seigneur, qui que ce soit, Seigneur, les personnes que nous croisons dans nos vies. Seigneur, elles peuvent se tourner vers toi. Alors, Seigneur, que nous soyons ces flambeaux, ces torches, d'une huile qui les embrase et qui répande une pleine lumière. Que nous soyons, Seigneur, cette lumière vers toutes ces personnes, déjà pour nous-mêmes et pour toutes ces personnes. Dans le nom de Jésus, je te prie. Amen. Amen.